BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end et même en plein cœur de l'été, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire ce week-end, eh bien la santé avec ces entreprises qui ont su, mais au bon sens du terme, profiter de la pandémie. Et tout d'abord Medadom, en janvier dernier, son fondateur nous annonçait une levée de fonds de 40 millions d'euros pour développer ses cabines de téléconsultation. Nous reviendrons également sur le succès de ID Solutions, une biotech de Montpellier qui a eu le nez creux, si je puis dire, en produisant des tests de détection des variants du Covid. Un succès commercial qui va maintenant lui permettre de développer fortement son activité de base en oncologie. Enfin, zoom sur un très ambitieux projet médical français, c'est Genesis, qui consiste à recréer de la peau humaine artificielle pour soigner notamment les grands brûlés. Un projet qui est porté par la branche médicale du célèbre groupe Urgo. Et tout d'abord donc, la télémédecine, c'est un phénomène qui commençait à émerger assez fortement, mais qui a bien évidemment connu un essor fulgurant lors des premiers confinements. Anthony Morel, au tout début de l'année 2021, mettait en avant et en lumière quelques start-up françaises bien positionnées dans ce domaine donc de la télémédecine. C'était dans Good Morning Business avec Audrey Maubert.
On commence à voir s'installer de plus en plus dans les zones rurales ce qu'on appelle des cabines de téléconsultation. Donc ça va plus loin que juste la téléconsultation via son smartphone, sa tablette, son ordinateur. Là, c'est carrément une petite capsule qui peut être dans une mairie, dans un village par exemple, une pharmacie. Vous arrivez, vous insérez votre carte vitale, vous vous asseyez, vous êtes en visio avec un médecin et alors là, vous avez tous les instruments pour vous ausculter vous-même. Alors vous êtes guidé évidemment par le médecin à distance, mais vous avez un tensiomètre, vous avez un otoscope pour mettre dans les oreilles, vous avez une loupe électronique pour analyser les grains de beauté, enfin tout un tas de choses. On ne peut pas aller très très loin, mais pour faire un check-up complet, eh bien ça peut être intéressant et on peut noter d'ailleurs que plusieurs start-up françaises sont assez en pointe sur ce sujet. On peut citer H4D qui a levé 15 millions d'euros cet été ou encore Tessane, enfin voilà, on a plein de boîtes qui sont spécialisées dans ces cabines de téléconsultation.
Et la télémédecine, encore une fois, elle a un rôle à jouer avec cette troisième vague qui arrive. On parle souvent de troisième vague psychiatrique.
Oui, bien sûr, et on se rend compte d'ailleurs que les psychiatres, les psychologues se sont inscrits en masse sur les plateformes de télémédecine. Effectivement, il va falloir gérer tous les problèmes de stress, d'anxiété, de dépression potentiellement. La plateforme, alors CARE, c'est l'un des géants de la télémédecine en France, explique qu'aujourd'hui les psys, les consultations psy, c'est la deuxième spécialité la plus utilisée derrière les généralistes. C'est-à-dire que les Français, globalement, il y a encore une barrière psychologique, c'est le cas de le dire, au fait de se déplacer, d'aller dans le cabinet d'un psychologue ou d'un psychiatre. Et là, pour le coup, eh bien, vous avez, on va dire, c'est beaucoup plus facile de le faire juste par Internet, en visioconférence. On va plus facilement franchir ce pas-là.
Certains acteurs de la télémédecine, comme Doctolib ou CARE, ont surtout développé des consultations en visio. Et puis d'autres, comme H4D ou encore Medadom, dont on va parler dans un instant, se sont concentrés sur les bornes ou sur les cabines de téléconsultation qui permettent de mesurer soi-même ou avec un assistant des données de santé, puis de les transmettre aux médecins. Au mois de janvier dernier, en 2021, je recevais Nathaniel Bern, le cofondateur de Medadom, à l'occasion d'une levée de fonds de 40 millions d'euros. Vous êtes cofondateur de Medadom, donc une des startups aussi spécialisées dans la télémédecine. Vous avez cofondé l'entreprise en 2017 avec Elidane Mimouni et Charles Mimouni. Alors, un modèle, et on va parler dans quelques instants aussi de votre levée de fonds de 40 millions d'euros, c'est aussi le motif de votre invitation. Mais d'abord, votre modèle, en presque 4 ans, il a évolué. Vous étiez un peu un service de prise de rendez-vous à la Doctolib, et depuis, plein de choses se sont passées pour Medadom.
Absolument. Nous, on a toujours été sur ce qu'on appelle le soin non programmé, donc quand les patients ont une urgence médicale, une urgence ressentie, ils ont besoin de voir un médecin, ils vont essayer de trouver par tous les moyens un médecin pour éviter d'aller par exemple se déplacer aux urgences pour des pathologies bénignes. Donc au départ on faisait effectivement de la mise en relation pour des visites à domicile et la réglementation, comme vous le savez, a changé en 2018 pour autoriser le remboursement des téléconsultations par l'assurance maladie.
Et ça a été un élément déclencheur vraiment pour le boost de votre activité.
Absolument, nous c'est à ce moment-là qu'on a pivoté et donc on a commencé à mettre en place de la téléconsultation sur Medadom. Dans un premier temps sur notre site internet, donc les patients font une demande sur le site, sont pris en charge par un médecin, encore une fois dans le cadre de soins non programmés, donc avec un médecin qu'ils ne connaissent pas forcément si leur médecin traitant n'est pas disponible ou qu'ils n'ont pas de médecin traitant. Et on a ajouté à notre offre la possibilité de téléconsulter dans des lieux tels que les pharmacies ou les mairies en installant cette fois-ci des bornes et des cabines de téléconsultation.
Donc les bornes, elles sont apparues, je crois, à la fin 2019. Les cabines, c'était prévu juste avant l'été 2020. Vous avez pu respecter votre calendrier de déploiement ?
Absolument. Aujourd'hui, on a près de 800 cabines et bornes qui sont installées partout sur le territoire, majoritairement en pharmacie. Donc on a énormément de bornes de téléconsultation médicale aux quatre coins du territoire, principalement dans des déserts médicaux, bien sûr, dans des pharmacies. Et aujourd'hui, on a commencé à avoir des mairies qui sont partenaires, dans lesquelles, en général, ce sont des cabines, effectivement, de téléconsultation qui sont implantées.
La différence entre bornes et cabines, on peut faire beaucoup plus d'actes de sauce sculptée, etc., seul dans les cabines.
En fait, pas nécessairement. La borne et la cabine ont le même équipement, donc les mêmes objets connectés. Simplement, la cabine est un espace confidentiel en soi. Donc, pour les pharmacies qui n'auraient pas forcément d'espace de confidentialité, la cabine est une solution. Pour les mairies qui n'ont pas forcément de salle dédiée, la cabine est une solution. Sinon, la borne peut tout à fait convenir.
Les bornes, les cabines, vous disiez 800 sont déployées à l'heure actuelle. Vos objectifs, ils sont assez grands, je crois, avec un chiffre fort d'ici 2024.
Absolument. On a pour ambition de déployer 25 000 dispositifs connectés d'ici 2024. Donc, c'est assez ambitieux. Cela étant, le marché est vraiment énorme. Aujourd'hui, on se rend compte que les pharmaciens viennent nous voir en nous disant que leurs patients n'arrivent pas à trouver de médecin, ont besoin parfois d'être accompagnés, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une cabine ou d'une borne de téléconsultation, d'être accompagnés par eux-mêmes, donc par un professionnel de santé dans la téléconsultation. On est tous au courant des maires qui recherchent désespérément un médecin.
Ils le cherchent pour les tests, ils les cherchent aussi pour les vaccinations bientôt, ils le cherchent aussi pour faire de la téléconsultation.
Absolument, ils cherchent un médecin de manière générale ou des médecins. Et quand vous avez des médecins qui ne s'installent pas dans certains territoires, la téléconsultation peut être une solution. Alors certes, ça ne résout pas tout, mais le fait d'avoir une borne ou une cabine de téléconsultation dans la mairie, ça permet au moins à votre population locale d'avoir un accès aux soins comme les autres citoyens.
Les pharmacies, les mairies, vous visez aussi le marché des entreprises ?
Absolument, on a commencé récemment à démarcher des entreprises pour installer justement ces cabines et ces bornes de téléconsultation pour tout ce qui est notamment bien-être au travail, santé au travail. Donc ça permet vraiment à l'employeur de donner la possibilité à ses salariés de réaliser des téléconsultations et d'avoir accès à un médecin même sur le lieu de travail. Et en cette période de crise sanitaire, on sait ô combien c'est important.
Le modèle économique, le vôtre, évidemment, vous vous rémunérez comment ? Le modèle économique pour ceux qui reçoivent une borne ou une cabine, on a dit les pharmacies, mairies, etc. Et pour le patient, en gros, ça rapporte ou ça coûte combien pour chacun ?
Alors le patient, il n'y a pas de modèle économique particulier, c'est-à-dire que le patient va payer sa consultation en tiers payant, donc il paye sa consultation classiquement comme s'il allait en cabinet, il n'y a pas de frais qui est facturé au patient.
Et ils sont remboursés, donc on l'a dit.
Ils sont remboursés par la Sécurité sociale, absolument. Du côté du pharmacien ou de la mairie, effectivement, on loue les bornes et les cabines de téléconsultation, ce qui fait que notre modèle économique repose sur la location sur 2 ou 3 ou 4 ans de ce dispositif de téléconsultation.
Une idée de ce que coûte une location pour une pharmacie ou autre ?
C'est environ 200 euros par mois sur 3 ans. Donc le pharmacien et la mairie, en échange de ce tarif, ont la possibilité de proposer ce service qui est absolument différenciant et majeur, puisqu'il redonne un accès aux soins soit à leurs patients, soit aux habitants du territoire.
Donc vous percevez de la location. Est-ce qu'il y a aussi une commission sur des actes effectués ?
Alors on a au niveau médical, en fait on a des partenariats avec des établissements de santé, ce qui nous permet non seulement d'avoir une permanence médicale, mais aussi de garantir au patient qui va être pris en charge en moins de 10 minutes. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre proposition de valeur, c'est qu'un patient qui arrive sur Medadom, on lui propose un médecin dans le cadre de soins non programmés. Après, on a des modèles de partenariat particuliers avec ces établissements de santé. En tout cas, la permanence médicale, c'est un élément fort et très important chez nous, puisque quand vous souhaitez avoir une téléconsultation, vous souhaitez réellement voir un médecin rapidement.
On a parlé donc en début de cet entretien de votre levée de fonds de 40 millions d'euros qui a eu lieu à la fin 2020, donc très bonne nouvelle. C'est une somme importante, même si de plus en plus les levées de fonds dont on parle sur cette antenne sont de plus en plus hautes, mais quand même c'est une somme. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 40 millions d'euros chez Medadom ?
Alors le but, c'est de devenir un acteur majeur, un acteur leader de la télémédecine en France et pourquoi pas en Europe. Aujourd'hui, cette levée de fonds de 40 millions millions d'euros, elle va nous servir à financer nos objectifs de croissance au niveau de nos de déploiement des bornes, des cabines de téléconsultation.
Donc les 25 000 d'ici 2024.
Hein, absolument, les 25 000 dispositifs d'ici 2024 et de manière générale d'émerger comme un leader de la télémédecine. Donc on va recruter à la fois des équipes commerciales pour aller démarcher les pharmaciens, les mairies, les collectivités territoriales, les entreprises, demain les EHPAD, les cabinets infirmiers, etc., pour installer ces dispositifs de téléconsultation. On va recruter des équipes marketing, technique, logistique, puisqu'on essaie de faire en sorte de maîtriser toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on assemble nous-mêmes les bornes, on installe, on livre nous-mêmes les bornes. Derrière, on s'assure qu'il y a une permanence médicale. Au niveau technique également, c'est fait en interne. Donc on a tous ces pans de la société qui sont gérés en interne. Et donc cette levée de fonds va servir à financer toutes ces équipes-là.
Et 250 recrutements d'ici 2 ans, hein, c'est ce que vous...
Absolument.
Et pour mesurer ses données de santé, il n'y a pas que les bornes et les cabines, il y a aussi son smartphone ou la webcam de son ordinateur. Et tout cela est rendu possible grâce à eVirtual qui a développé une technologie qui permet de mesurer 6 variables physiologiques. La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la saturation en oxygène, la variabilité cardiaque et le niveau de stress. eVirtual est basé à Metz. Un des cofondateurs de la start-up, Gaël Constancin, était mon invité en duplex. C'était le 20 mars dernier.
Qui sont aboutis en 5 années à développer un outil qui permet, en faisant un simple selfie de 30 secondes, un selfie vidéo, d'extraire du visage, en fait, des signes vitaux, 6 signes vitaux.
Alors,
donc,
lesquels?
Quatre sont déjà terminés, donc le rythme cardiaque ou fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. On extrait aussi 2 données d'ordre bien-être que sont la variabilité cardiaque et le niveau de stress. Et nous avons 2 dernières données médicales qui sont en cours de développement, dont une est pratiquement terminée, la saturation en oxygène, donc cette fameuse SPO2. Et ensuite, pour fin d'année, la tension artérielle. Tout ça sans contact, en utilisant simplement son smartphone ou son ordinateur. Notre solution, qui est une brique logicielle, avant de la mettre sur le marché dans le domaine du médical, parce que c'est bien le marché qu'on va adresser, tout ce qui va être télé quelque chose, télémesure. Télémédecine, téléconsultation, télésoins. Là, on a besoin d'une chose, c'est la certification CE pour pouvoir accéder au marché. Donc, c'est bien le sésame de la mise sur le marché qui est donnée par la certification CE qui est en cours.
Elle est en cours, elle aboutira quand? Quels sont vos objectifs?
L'objectif, c'est d'obtenir le sésame courant de l'été de cette année.
Je le disais, donc une levée de fonds qui vient d'intervenir de 2,5 millions d'euros. À quoi va vous servir cette somme dans le déploiement, dans le développement de eVirtual?
Ces 2,5 millions d'euros vont permettre de finaliser la partie recherche et développement de nos outils, de lancer 2 autres études cliniques, là, dont une va démarrer courant de l'été 2021 sur la saturation en oxygène et la prochaine tension artérielle début 2022, et surtout d'amorcer le déploiement commercial en Europe, donc la vente, hein, vraiment démarrer la vente de notre outil sur l'Europe entière.
Et un dernier mot pour terminer cet entretien, vos ambitions grâce à cette technologie, grâce à cette levée de fonds, grâce à votre déploiement, c'est de vous développer en dehors de France et même pourquoi pas le marché américain?
Bien sûr. Alors nous, en fait, on a une première étape, la certification CE, qui nous permet d'adresser le marché européen en une seule fois, en fait. Hein. Et ensuite, donc la prochaine étape, certification FDA pour aller aux US. Donc, la démarche va être mise en place début 2022 pour accéder au marché courant de l'année 2022.
Et côté emploi, justement, eVirtual envisage fin 2021 un effectif de 25 personnes. C'est 6 fois plus qu'en 2020. Des recrutements rendus possibles notamment par la levée de fonds de 2,5 millions d'euros. C'était au mois de mars de cette année 2021. On va continuer ce tour de France des entreprises innovantes de la tech. Et après Metz, direction à présent Grabel, c'est en banlieue de Montpellier. C'est là qu'est installée ID Solutions, une jeune biotech qui jusqu'en 2020 vivotait, entre guillemets, en produisant des tests en oncologie. Et puis en 2020, ID Solutions donc à pivoter, comme on dit, pour produire d'abord des tests PCR, puis des kits de détection des variants à destination des laboratoires d'analyse. Et on connaît bien évidemment depuis quelques semaines, quelques mois, l'importance de la recherche des variants. Elle est essentielle dans la lutte contre le Covid. Résultat donc pour ID Solutions, un chiffre d'affaires qui en un an est passé de 75 000 euros à 50 millions d'euros. Le 27 février dernier, je recevais Lise Grévis, la directrice d'ID Solutions, en duplex donc de la banlieue de Montpellier.
qui s'est passé, c'est qu'en mars 2020, les hôpitaux de Montpellier, les laboratoires Inovi, qui sont les laboratoires du sud de la France, nous ont sollicité puisqu'ils étaient en pénurie de matières premières en biologie moléculaire. Et ils nous ont sollicité puisque nous étions une société qui développons des outils en biologie moléculaire. Donc on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait besoin d'aider. Donc on a orienté, on a changé l'orientation de notre société pour apporter notre support au départ d'un point de vue proximité pour développer des outils de diagnostic en oncologie uniquement pour les laboratoires du Sud.
Et c'était juste voilà sur la région Sud ou est-ce que c'est vite allé au niveau national ensuite?
Ensuite, de bouche à oreille, par rapport à la capacité de nos outils à aller très vite et par rapport aux demandes de débit, on s'est très très vite déployé partout en France.
Et les chiffres sont impressionnants parce que je crois que vous étiez sur un chiffre d'affaires, si mes chiffres sont bons, en 2019 sur votre seule activité de 75 000 euros. Et je crois qu'en 2020, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment ce pivot qui a été à l'origine de cette explosion de votre chiffre d'affaires?
Tout à fait. On a pu passer donc de 8 à 30 personnes
en
pour
plus.
Répondre aux besoins. Oui, pour répondre à ce besoin, nous avons dû être en capacité de produire jusqu'à 500 000 tests par semaine au pic des demandes. Et on est capable de produire aujourd'hui jusqu'à 1 million de tests par semaine.
Alors donc ça c'était les tests, c'était le gros de votre activité dans l'année 2020 et ça continue bien sûr parce que on est loin d'être sorti de cette pandémie. Mais évidemment vous avez, vous et c'est votre rôle aussi en tant que directrice, vous avez l'oreille qui traîne beaucoup et vous êtes dit en décembre, vous avez entendu parler de ces fameux variants qui étaient à ce moment-là très présents, notamment en Angleterre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit il y a encore là une opportunité business qu'il faut saisir pour idée solution et on en vient donc au kit de détection que vous avez mis en place. Expliquez-nous cela.
Tout à fait. Donc, il faut savoir que par rapport à l'oncologie, notre spécialité, c'est la médecine personnalisée. Donc, on reste en veille de tout ce qui peut se passer dans le monde pour pouvoir préparer les outils. Quand on a entendu parler du variant anglais, on s'est dit potentiellement en France, il va y avoir besoin d'un point de vue sanitaire de développer très rapidement un outil. Donc, on a préparé ça. On avait sous la main très rapidement, puisqu'il faut commander quand même du matériel, de quoi développer un kit au cas où. Donc quand le ministère de la Santé a demandé le 23 janvier à la France entière de pouvoir cribler les variants anglais, sud-africains et brésiliens, on avait déjà tout en main pour pouvoir y répondre, ce qui fait que le 27 janvier, on était en capacité d'envoyer dans toute la France un outil pour répondre aux besoins sanitaires.
Et c'est ce que vous avez fait donc dès la semaine d'après, puisque dès le 4 février, vous avez donc pu fournir tous ces kits. Qui sont vos clients? C'est les laboratoires? Qui sont celles et ceux qui vous ont acheté ces kits de détection des variants?
Alors, il y a bien sûr les laboratoires privés de biologie médicale, mais il y a également les CHU. Et il y a également les laboratoires vétérinaires départementaux qui prêtent main forte aux laboratoires de biologie médicale pour répondre à l'afflux des demandes.
Vous nous avez parlé de l'impact déjà, donc on a parlé de l'impact chiffre d'affaires. Vous nous avez évoqué l'impact sur les emplois. Vous êtes passé en 2020 de 8 à 30 salariés. Est-ce qu'il y a sur l'année 2021 d'autres perspectives d'embauche?
Alors oui, effectivement, d'autres perspectives d'embauche et surtout aussi un déploiement des équipes et des laboratoires qui font que nous sommes à la recherche de nouveaux bâtiments.
Et toujours dans la région de Montpellier?
Tout à fait.
Absolument, oui. je vous comprends. Juste une toute dernière question. Donc du coup, on espère tous évidemment 2021 sera la sortie de crise de ce que l'on vit depuis un an. Je pense que vous avez les mêmes souhaits, ce qui veut dire que vous allez retravailler à 100% ensuite sur votre activité de base, les tests en oncologie. Et au final, que vous aura rapporté, si je puis dire, en termes de légitimité, en termes d'image, la crise que nous venons et que nous sommes encore en train de traverser?
Alors, ce que nous a apporté aussi cette crise, il faut le dire, c'est des moyens financiers qui étaient difficiles à ce jour pour le développement de nos outils, puisque dans le domaine de la recherche, pour faire écho à la précédente interview, effectivement, ce n'est pas facile pour une start-up de travailler en France avec des laboratoires de recherche françaises et d'avancer vite et avec des moyens financiers pour développer nos outils. Aujourd'hui, le fait d'avoir ces outils, non seulement on va pouvoir les développer plus vite, avec des technologies encore plus de pointe. Et aussi, on voudrait investir dans la recherche contre le cancer pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice pour les patients cancéreux.
Et on va rester dans le domaine de la recherche contre le cancer avec une autre pépite de la tech française. Elle a un pied à Paris, l'autre à New York, et elle s'appelle Mnemotherapeutics, qui a levé 75 millions d'euros, c'était au mois de juin dernier. On est là dans le domaine de l'immuno-oncologie, c'est-à-dire ces nouvelles thérapies cellulaires contre les cancers. Juste avant d'écouter Alain Mayoret, le cofondateur de l'entreprise, Hélène Cornet nous dit tout sur la levée de fonds et sur les grandes ambitions de Mnemotherapeutics.
La plupart des grands fonds spécialisés dans la santé ont répondu présent pour ce premier tour de table et parmi eux le fonds européen Sofinnova qui a soutenu la biotech dès sa création en 2016. 75 millions d'euros levés au total pour aider au développement de Mnemotherapeutics, une biotech française à la pointe de la recherche contre certains cancers. Le potentiel du marché est colossal. Principale innovation, une nouvelle approche thérapeutique auto-immune qui consiste à booster le système immunitaire afin qu'il combatte lui-même plus efficacement les cellules cancéreuses. Les recherches débutent et la société n'en est pas encore au stade clinique, mais les investisseurs semblent avoir été convaincus de la pertinence de cette nouvelle plateforme technologique, mise au point par des chercheurs de renommée mondiale, car Mnemo, c'est avant tout l'alliance de deux leaders dans la thérapie contre le cancer, l'Institut Curie en France et le Memorial Sloan Kettering à New York.
On appartient au secteur de l'immuno-oncologie qui a vraiment révolutionné le traitement du cancer ces 10-15 dernières années. C'est le domaine de la thérapie cellulaire. Il y a un acteur en France qui était jusqu'à maintenant très connu, qui était Cellectis. Mm-hmm. On a profité du fait qu'il nous ait ouvert la voie pour évidemment s'engouffrer dans la brèche.
Là, les 75 millions d'euros, ils vont vous servir à quoi aussi? À accélérer? C'est vers les essais cliniques? C'est financer justement cette prochaine étape?
De toute façon, depuis le début, on accélère. C'est le maître mot du mode de fonctionnement. C'est vraiment se focaliser sur la construction de l'entreprise dans des échelles de temps qui sont équivalentes à ce que font nos collègues américains. Et l'argent qu'on a levé, c'est vraiment pour renforcer la plateforme. On a de multiples programmes de découverte et de développement préclinique sur des cibles précises, aussi bien en tumeur liquide qu'en tumeur solide. Et le but, c'est d'être en capacité de rentrer en clinique fin 2023, début 2024.
Et on va terminer cette émission toujours dans le domaine de l'excellence en matière de santé, l'excellence française, avec ce très ambitieux projet baptisé Genesis, qui consiste à recréer de la peau humaine artificielle, une peau qui servirait à des patients, par exemple lors de très graves brûlures. Si le projet va à son terme, eh bien ce serait une grande première mondiale. Un projet porté par la célèbre société Urgo, créée à Dijon en 1880 et qui a marqué l'histoire de nos familles, bien sûr, avec la création des pansements. C'était dans les années 50. Urgo, en tout cas, sa branche médical a réuni des partenaires privés et publics pour mener à bien son projet. Guirec Leloup, le président d'Urgo Médical, était l'invité de Guillaume Paul. C'était au mois d'avril.
Trouver une alternative à l'autogreffe, le seul traitement efficace à ce jour pour certains malades, mais souvent long et douloureux, voilà l'immense ambition d'Urgo. Le groupe pharmaceutique, jusqu'ici plutôt connu pour ses pansements, se donne 5 à 10 ans pour inventer une peau artificielle prête à l'emploi. Un défi scientifique et technologique que le groupe mûrissait déjà depuis quelques années, mais le projet s'est aujourd'hui accéléré. Urgo a réuni un consortium de 5 acteurs publics et privés, parmi eux plusieurs organismes de recherche, comme un laboratoire du CNRS spécialisé dans la peau, mais aussi l'entreprise Dassault Systèmes qui apportera son expertise dans la modélisation 3D du corps humain, des compétences pluridisciplinaires auxquelles s'ajoute une participation financière de la part de chaque entité. L'initiative est également soutenue par l'État. BPI France va injecter près de 23 millions d'euros, portant la taille globale du projet à 100 millions d'euros.
C'est un pari un peu fou. Quand on en parle aux médecins, ils nous disent que ce serait le graal absolu pour les patients, cette peau artificielle. Il faut imaginer aujourd'hui un patient qui arrive à l'hôpital, par exemple un grand brûlé. Ouais. La seule manière de le soigner, c'est l'autogreffe. Donc c'est de lui prendre de la peau là où il en reste pour le lui mettre là où il en manque. Et ça peut parfois prendre plusieurs opérations chirurgicales les unes après les autres.
C'est très douloureux.
Très long, très douloureux pour le patient. Ouais. Demain, avec Genesis, si on y arrive...
Genesis, c'est le nom du projet. Voilà.
Exactement. C'est ça. Ouais. Alors, avec la peau artificielle, si on y arrive, on peut imaginer que le patient arrive à l'hôpital et hop, directement, on lui met la peau artificielle.
Mais si vous y arrivez, ça sera une première mondiale. Vous dites, on se donne 5 à 10 ans pour y parvenir et je crois qu'il y a 100 millions d'euros au total sur la table pour ça. Vous êtes associé à des entreprises du secteur privé, Dassault Systèmes notamment. Vous êtes associé à un laboratoire du CNRS, à une région ou deux, je crois. Voilà. Qu'est-ce que chacun va vous apporter fondamentalement dans cette histoire ?
Il faut imaginer que c'est un défi technologique, scientifique immense. Ouais. Effectivement, ce serait une première mondiale. Beaucoup d'autres ont essayé ou essayent encore aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on y croit, c'est qu'on a vraiment réuni cette Dream Team française. On est allé chercher les meilleurs experts, chacun dans leur domaine.
Vous auriez pu le faire plus tôt avec des acteurs étrangers ?
Alors, on a vraiment voulu rester en France, parce qu'en France, on a cette recherche académique de pointe, on a les meilleurs chercheurs, on a un tissu industriel extrêmement innovant, notamment avec Urgo, et on s'est dit qu'on allait pouvoir constituer cette Dream Team et ensemble relever ce défi, notamment grâce au financement de la BPI.
Et c'est la fin de ce premier best-of de l'été. La semaine prochaine, nous reviendrons sur l'explosion du nombre de licornes en France depuis quelques mois et sur les licornes en gestation, celles qui sont actuellement dans ce qu'on appelle l'antichambre du Next 40. D'ici là, je souhaite un bon courage aux juilletistes, de bonnes vacances aux Aoussiens et rendez-vous le week-end prochain pour la France à tout pour réussir. Très bon week-end, très bel été sur BFM Business.
BFM Business, la France à tout pour réussir.